GBA.
Parlez-en autour de vous et parlez-en autour de vous.
GBA.
Bien plus qu'une radio.
Bien plus qu'une radio.
Étude sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, oh Jésus. Te connais. Il n'y a rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma joie et ma justice. Oh Seigneur.
Bonsoir à vous tous, auditeurs et auditrices de la radio de l'Évangile. Bienvenue à l'heure de l'émission Études sur Cantique. Nous sommes encore là en ce jour pour étudier un cantique spécial, mais entre-temps, avant de vous annoncer le titre du cantique et d'écouter la chanson, je vais vous introduire notre bien-aimé frère, l'autre Laurent. Bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Alors, nous avons un cantique à étudier cet après-midi. Et le cantique, c'est « Moi, j'ai décidé de suivre Jésus ».
Ok.
Oui, tu le connais certainement très bien.
Oui.
Et nous l'avons également en version EV. Je crois qu'il nous dit ceci. J'ai les paroles, quelques paroles que je, que, dont je me rappelle. « Atisogala ».
Non, et, mais « Donoube ah, ».
Voilà.
Ma Dieu Yesu yo.
Oui.
Me donne ouvre. Ma Dieu Yesu yo. Me donne ouvre. Ma Dieu Yesu yo. Trop mélio.
C'est une chanson très populaire que nous connaissons. Mais cet après-midi, dans l'émission de ce jour, on va essayer de comprendre quelle est l'origine de ce chant, d'où nous vient la chanson, comment la chanson est-elle venue, comment avons-nous reçu les paroles de cette chanson. Nous allons pas, nous avons prédonné l'évé, mais on va vous laisser écouter, on va écouter la version française de ce chant, et entre-temps, au cours de l'émission, on va également écouter la version anglaise de ce chant. Je vous laisse écouter la version française du chant « Moi j'ai décidé de suivre Jésus ».
J'ai décidé de
C'est le cantique, c'est le chant, c'est l'hymne que nous allons étudier dans l'émission de ce jour. L'autre Laurent, très souvent nous connaissons que deux couplets de cette chanson-là. Le premier couplet, moi j'ai décidé de suivre Jésus, et le deuxième, le dernier couplet, le troisième couplet dans la chanson qu'on vient d'écouter. La croix devant moi, le monde derrière moi. Alors, l'autre Laurent, je sais pas d'où nous vient cette chanson, quelle est l'origine de ce chant? On va aller pas à pas pour que les auditeurs comprennent réellement d'où vient la chanson.
D'accord. La chanson « Moi, j'ai décidé de suivre Jésus »
oui.
Est un hymne chrétien qui nous vient de l'Inde.
Mm.
D'accord, ça vient de l'Inde. Les paroles sont basées sur les derniers mots d'un chrétien qui était persécuté et dont la famille a été exécutée et plus tard lui-même sera exécuté. Donc c'est d'entrée de jeu l'idée qu'on peut se faire de la chanson. Vous savez, il y a environ, je crois, 150 ans, il y a eu un grand réveil au pays de Galles. Et suite à cela, de nombreux missionnaires sont aller un peu partout dans le monde, et notamment dans le nord-est de l'Inde, pour répandre l'évangile. Et là, dans leur œuvre missionnaire, la région qui est connue sous le nom d'Assam était composée donc de centaines de tribus de chasseurs de têtes qui sont primitifs et agressifs dans leur comportement. Donc, l'évangile est parvenu dans ces coins reculés, et dans ces communautés hostiles et agressives, un groupe de missionnaires des missions baptistes américaines est parti répandre le message d'amour, de paix et d'espoir en Jésus-Christ. Et naturellement, ces missionnaires n'ont pas été très bien accueillis. Mais un missionnaire a réussi à convertir un homme, sa femme et ses deux fils.
Un homme de cette tribu indienne.
Donc, voilà. Et donc, quand nous parlons d'Indiens ici, il y a beaucoup de gens qui sont confus. Quand on parle d'Indiens, on veut parler de ceux qui sont originaires de l'Inde. À ne pas confondre avec les peuplades qui habitaient le pays, le territoire que nous appelons aujourd'hui les États-Unis. D'accord? C'est Christophe Colomb qui s'était trompé et qui a pensé qu'il avait affaire à des Indiens. D'accord? Très bien. Donc, nous parlons de l'Inde, ici. Pas de ce territoire-là conquis par Christophe Colomb. Donc, le missionnaire a réussi à convertir un homme, une femme et ses deux fils. Donc, la foi de cet homme s'est révélée contagieuse et de nombreux villageois ont commencé à accepter le Seigneur Jésus.
C'est-à-dire que ce monsieur a commencé par prêcher l'évangile à son entourage.
Oui, et les gens se convertissaient, ça allait de village en village. Donc, furieux, le chef du village a convoqué tous les villageois. Ensuite, il a appelé la famille qui s'était convertie la première et lui a demandé de renoncer à sa foi en public sous peine d'être exécuté.
Donc,
le monsieur était là, sa femme, ses deux fils sont là.
Et la population était là.
Était là, rassemblée. Le chef maintenant lui demande à ce monsieur et à sa femme et ses fils de renoncer publiquement à leur foi. Donc, poussé par le Saint-Esprit, l'homme a composé instantanément une chanson qui est devenue célèbre au fil des temps. Donc, c'est cette chanson-là dont nous sommes en train de parler. Donc, quand le chef lui a demandé de renoncer à sa foi en Jésus publiquement, sous peine d'être exécuté, le monsieur a dit « Moi, j'ai décidé de suivre Jésus ».
Ça, c'est les premières paroles de la chanson qu'il a commencé par. «
J'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus sans retourner. » Sans retourner, ça veut dire je ne retournerai pas en arrière, j'ai pris une décision, je ne vais plus regarder en arrière, quoi qu'il arrive, j'ai décidé de suivre Jésus et je le suivrai jusqu'au bout.
Très bien, donc le chef met la pression sur lui, il lui demande de renoncer à sa foi devant la population, devant ses sujets, et l'Indien chrétien converti, il dit, moi j'ai décidé
de suivre Jésus.
Et
là, sur le champ, le chef, devant donc le refus de l'homme, le chef, a ordonné aux archers et
aux archers,
les archers, leurs guerriers qui sont armés de flèches et d'arcs.
À l'époque, de flèches
donc,
à l'époque.
Donc, ils ont tué les deux enfants. Mmh. Alors que les deux garçons étaient allongés par terre, ils sont décédés, bien entendu, parce que vous savez, ces peuplades-là avaient des flèches qui sont empoisonnées. Donc, les enfants sont là, allongés sur le sol, et là. Une autre question sera posée après.
Très bien. Une autre question sera posée après. Donc, la première parole qui sort de la bouche de l'Indien est « Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Les enfants, les deux enfants ont été... »
Exécutés.
Je vais dire fléchés.
Oui.
Exécutés, ça serait plus facile. Hein, parce que quand on vous exécute, là, vous mourrez en même temps.
Oui.
Mais fléchés, avec les flèches qui font endurer...
Vous allez agonir.
Voilà, jusqu'à mourir.
Oui.
Jusqu'à mourir. Et c'est là qu'il entonnait le premier couplet de la chanson. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus, que je vous laisse encore écouter juste le premier couplet. Voilà, nous sommes à ce niveau-là. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Et qu'est-ce qui se passe après l'autre, Laurent?
Bien, donc, là, les deux garçons sont allongés sur le sol. Et le chef demande, encore une fois, il pose une question au monsieur. Vas-tu renier ta foi? Tu as déjà perdu tes deux enfants. Tu vas perdre ta femme aussi. Renie ta foi, renonce à Jésus et tu auras la vie, sauve toi et ta femme. Mais l'homme chanta ses mots en réponse. Donc il a dit, chantez, même si je suis seul, je continuerai. Même si je suis seul, je continuerai. Même si je suis seul, je continuerai sans retourner, sans retourner.
Mais ce monsieur-là, il est audacieux, hein?
Oui, audacieux, disons que c'est ce que fait le Saint-Esprit en nous, lorsque nous faisons face à l'adversité, surtout lors de la persécution. C'est pour cela que Jésus a dit, lorsqu'on vous arrêtera, ne préméditez pas la réponse que vous aurez à donner, parce que la réponse que vous aurez à donner vous sera donnée à l'heure même par l'esprit de votre Père.
Très bien. L'autre, Laurent, le chef pose la question, lui répond en chantant. Il dit, même si je suis seul,
je continuerai.
Je continuerai.
Ça veut dire que si je venais à perdre ma femme et que je suis seul, je continuerai dans ma foi.
Mais entre-temps, les enfants étaient agonissants.
Oui, bien entendu.
Au sol.
Et bon, quelques temps après, ils vont mourir parce que c'est une flèche empoisonnée. Dans tous les cas, le monsieur est converti, la femme est convertie, les enfants. Et donc, là, les deux enfants décédés, ça, c'est des martyrs. Hein, c'est ce qu'on appelle martyrs parce qu'ils sont morts pour leur foi. Donc, la femme pouvait aussi se comporter en insensé comme la femme de Lot, autant pour moi, la femme de Job.
On va revenir sur ça, hein, entre-temps. Mais il a répondu en disant, même si je suis seul je continuerai.
Je continuerai,
Sa femme a été exécutée alors?
Oui, la femme est exécutée.
Elle a été fléchée.
Oui. Bon, si tu aimes le verbe
fléché. Je préfère fléché parce que si c'est avec une arme à feu
oui,
on reçoit le coup et on meurt. En même temps, on ne va pas souffrir. Mais là, avec les flèches empoisonnées, j'imagine un peu la douleur. La douleur que subit les victimes. Bien, là.
Même si je suis seul, je continuerai. Même si je suis seul, je continuerai. Sans retourner.
Voilà, il a encore répondu. on a tué la femme, l'autre Laurent. Qu'est-ce qui se passe par la suite?
Bien. Le chef, donc, était hors de lui. Avec fureur, il a donné à ses guerriers de tuer la femme, ce qui a été fait. Elle, elle a rejoint ses deux enfants dans la mort. Le chef demanda ensuite à l'homme pour la dernière fois. « Je te donnerai une autre chance de renier ta foi et de vivre. »
L'objectif, c'était juste de renier sa foi.
Et de vivre.
Ah, là, y a...
Et donc, là, face à la mort, le monsieur a entonné encore... le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Sans retourner, sans retourner. Ça veut dire, j'ai pris ma résolution. J'ai mon regard fixé sur la croix de Christ. Et je vais aller jusqu'au bout. Le monde est derrière moi. Je ne retournerai plus en arrière.
Très bien.
Je ne regarderai plus en arrière. Ma décision, elle est immuable. Quoi qu'il arrive, je ne renoncerai pas à ma foi, je ne renierai pas Jésus.
Aïe.
C'est ce qu'il a dit. Et il a été abattu, comme le reste de sa famille. Mais avec ces gens qui sont décédés, un miracle a eu lieu. Le chef qui avait ordonné les meurtres était ému par la foi de l'homme. Et donc, d'un seul coup, en confession de foi spontanée, le chef déclare « Moi aussi, j'appartiens à Jésus ».
Comment le chef qui vient de faire exécuter les enfants, la femme et l'homme,
il décide
juste après.
Oui, moi aussi, j'appartiens à Jésus.
Un assassin décide juste après
de se convertir.
De se convertir.
Lorsque la foule a entendu cela de la bouche de son chef, bien entendu, chef,
oui.
Tout le village a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur. Et son sauveur. Donc, c'est dans cette ambiance-là que ce cantique est parvenu aux missionnaires qui, après, l'ont traduit en anglais et tout le reste. Il y a même des églises qui l'ont avec les trois couplets. D'autres même vont jusqu'à ajouter un dernier couplet, surtout quand ils lancent l'appel pour que les gens se donnent à Christ. Ils disent par exemple, Will you decide now to follow Jesus? Parce que, bon, c'est vrai que je n'avais pas lu l'original en anglais, où il a dit, I have decided to follow Jesus, I have decided to follow Jesus, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Though none go with me, I will follow. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. My cross I will carry till I see Jesus. My cross I will carry till I see Jesus. My cross I will carry till I see Jesus. No turning back, no turning back. Donc, dans ces églises, quand on lance l'appel, maintenant on demande à ceux qui veulent servir le souffle de son dire, will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. Donc voilà de façon synthétique le contenu et l'arrière-plan de ce cantique que nous étudions cet après-midi.
Très bien, très bien. On va en revenir. Tout est dit, hein.
Oui.
Mais on va dans un instant. Bien, chers auditeurs, veuillez bien nous excuser. On a eu une petite coupure de courant. Veuillez bien nous excuser. Et nous allons reprendre l'émission là où on a laissé l'autre Laurent.
Oui.
Je disais entre-temps que nous allons dès à présent écouter la version anglaise.
Mm-hmm.
Puisque tu as donné les paroles en anglais.
Mm-hmm.
Nous allons écouter la version anglaise de la chanson « I have decided to follow Jesus ».
Decided to follow Jesus,
Laurent, j'aurais bien voulu qu'on analyse un peu le contour de tout ce qui s'est passé. Le chef a mis à mort l'Indien, bon, les enfants, sa femme et l'Indien lui-même.
Oui.
Bien, il y a des faits marquants, hein, qu'il faut noter dans cette histoire. Et quels sont ces faits-là? D'abord, c'est un constat, et tu vas peut-être rajouter ou même essayer de faire tes analyses également. Les enfants n'ont pas crié à leur père lorsqu'ils étaient mis en... Ils devaient être mis à mort. Mm-hmm. Parce qu'ils écoutaient également le chef disant, okay, je vais mettre tes enfants, je vais les tuer. Mm-hmm. Les enfants n'ont pas crié en disant, papa, renonce à cette foi-là pour que nous vivions.
Oui, ben ça c'est tout à fait normal parce que vous voyez, quand on parle de christianisme, quand on parle de la conversion, quand elle est authentique, quand la conversion est authentique, l'esprit de Christ habite le chrétien. Autant Christ n'a pas renié son père face à la mort, autant les chrétiens véritables, des gens qui marchent avec Dieu, quand ce moment arrive, on ne dira pas qu'ils ont un caractère fort. Ils sont extravertis, ils sont des gens effrontés. Non, mais c'est l'Esprit de Christ qui, en ce moment, accorde le courage aux chrétiens de dire non au péché, de refuser de transiger avec sa foi, de refuser de renoncer à Christ. Pourquoi? Là, en ce moment, ce n'est plus juste l'homme qui intervient, mais c'est le chrétien, celui en qui réside l'Esprit de Dieu. Les enfants n'ont pas pleuré ou n'ont pas fait appel à leur père pour lui dire non, voilà ce qu'il faut faire. Non, parce qu'ils étaient chrétiens aussi. Vous savez, quand on parle du martyr, le martyr, à peine l'âme ou ce qu'on veut utiliser pour tuer les chrétiens, à peine cela le touche, son esprit s'en va déjà. C'est pour cela que le diable perd toujours le combat quand il s'agit du martyr des chrétiens. D'accord? À peine la flèche les a touchés, leur esprit est déjà parti. Donc le reste là, vous perdez votre temps en voulant tuer un chrétien. Et c'est justement parce que déjà sous l'ancienne alliance, Balaam savait qu'aussi longtemps que Dieu était avec les Juifs, l'enchantement ne pouvait rien contre les Juifs. C'est pour cela qu'il a envoyé, il a demandé à Balak d'envoyer des fils et des filles et des garçons là pour qu'ils puissent tomber dans l'immoralité. Et ce faisant, la gloire de Dieu s'en va, la présence de Dieu s'en va. En ce moment, on pourra les avoir.
Très bien.
Et donc là, ces enfants gardés par le Seigneur, en ce moment précis, ils étaient morts, martyrs, sont partis. La mère, dans la même situation, bien oui. entendu. Elle est chrétienne.
Oui.
Vous
oui.
voyez un peu
oui, oui.
C'est dans cette situation que se révèle notre état réel. Vous savez, il est facile, hein, quand on est entre les quatre murs de l'église, de chanter, de clamer, de proclamer notre foi en Christ, qui nous sommes pour lui, que ce soit au travers de cantiques directs ou bien au travers de prestations de groupes musicaux ou au travers de chorales. Il est facile de faire ça, mais quand tu fais face à quelqu'un qui pointe une arme sur toi et qui te dit « Ok, tu renonces à Jésus, tu vis et tu vis ou tu gardes ta foi, je te tue. » C'est en ce moment que toi-même tu te rendras compte.
Tu es chrétien
si,
ou pas.
Si tu as jamais été vraiment chrétien, c'est en ce moment ça se sait. C'est dans l'adversité, dans la persécution, que le chrétien prend conscience de son degré de consécration et de son niveau d'allégeance à Jésus-Christ. Donc là, quand on lit ce récit, quand, si vous avez une fois vu l'histoire de l'Église, comment les chrétiens étaient exécutés dans l'arène à Rome et tout ça là, vous allez voir, c'est le même schéma. Hein, quand on envoie les lions tuer les chrétiens, vous allez les en train de chanter pendant qu'ils sont tués. Ah. Et c'est ça qui amenait même des gens dans l'arène à dire, mais devant ça là, ces gens qui ne pleurent pas, qui ne demandent pas pardon, mais qui sont prêts à mourir pour leur foi, c'est ça qui amenait d'autres
à
se convertir. C'est pourquoi on dit que le sang des martyrs, c'est une semence pour l'Église. Partout, les gens meurent pour leur foi. Il n'y a plus que eux qui vont se convertir. Un chrétien qui meurt pour sa foi, vous allez voir un nombre incalculable de nouveaux chrétiens qui vont se convertir. Donc, c'est moi mon analyse de ce texte, du récit.
Très bien. C'est ton analyse qui est d'ailleurs bien objective. Et quand on veut prendre aussi la femme, l'autre Laurent, la femme n'a pas, tu l'as dit tantôt au début de l'émission, hein, la femme n'était pas comme la femme de Job.
La femme, oui, bien
entendu. Parce que la femme pouvait dire, ah, tu vois, on a tué les deux enfants. Tu continues encore pas à persévérer dans cette folie entre griffes. Renonce. Mais elle n'a pas aussi dit ça.
Oui, mais...
C'est dû à quoi? Quelle est cette force-là qui était aussi en elle?
C'est sa communion avec Jésus. Ouais, quand on dit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille », dans cette embellie d'expression qui encourage à prêcher pour que les membres de nos familles se convertissent, au-delà de tout ça, la foi, c'est une affaire personnelle. C'est une question personnelle et individuelle. Ma communion, elle n'est pas transférable à mes enfants. Vous voyez un peu? Je me convertis, je prêche à mes enfants et aux membres de ma famille se convertissent, mais j'ai ma communion avec lui. Il y a des choses que le Seigneur me dit à moi, pas aux autres. Parce que chacun doit avoir cette relation. C'est pour cela que nous ne cessons de dire à ceux qui nous entendent, quand on parle de christianisme, c'est les hommes qui en ont fait une religion. C'est une relation où Jésus, là, ce n'est pas un personnage historique, mais c'est quelqu'un de réel. Quand il te parle, quand je me lève le matin avant de prendre ma Bible ou pendant que je lis la Bible, quand il me parle, je sais qu'il me parle. Et ça, quand on est converti, ça se sait. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire d'un côté aux Romains et de l'autre aux Galates, il dit, mais parce que nous sommes enfants de Dieu, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils par lequel nous crions Abba, Père. C'est en ce moment que nous prenons conscience de nos filiations. Ce n'est pas quelqu'un qui nous convainc, c'est l'esprit qui rend témoignage à mon esprit, à moi. Si vous êtes converti, l'esprit rend témoignage à votre esprit, à vous. Cette conviction, elle est plus forte que la conviction que j'ai que je suis un homme. En considérant la morphologie de mon corps, et l'anatomie de mon corps, oui, je suis un homme, mais la conviction que j'ai d'être fils de Dieu à travers l'œuvre de Christ à la croix est plus profonde que ça. Donc, lorsque quelque chose vient remettre en cause cette filiation, cette communion, l'Esprit de Christ en moi agit. C'est ce qui a fait que cette femme, vous verrez, elle n'a même pas bronché.
Oh, oui.
Elle n'a même pas bronché. Et le monsieur, chef de famille, oui, bien entendu, oui, c'est à lui que les questions étaient posées. Oui. Il a tenu ferme jusqu'au bout. Vous avez tué mes enfants et vous me dites après de renoncer. Si je renonce, vous allez ressusciter mes enfants. Non, vous avez déjà perdu la partie. Mais c'est comme ça.
Et même le chef lui disait, selon ce que tu viens de nous rapporter, le chef lui disait, je vais tuer ta femme aussi. Oui. C'est-à-dire, la femme, c'était comme la personne principale. Si tu touches à la femme, c'est celui qui va renoncer.
Ça, l'ennemi est en train de jouer sur le terrain de l'affection. Pourquoi il a tué les enfants d'abord? Les parents sont prêts à tout donner pour sauvegarder la vie de leurs enfants. C'est oui. pour cela que l'ennemi a commencé par...
Par les enfants.
D'accord? Oui. Quand vous cherchez un spécialiste en torture, oui. le diable est un spécialiste dans ce domaine. Mmh. Il ne sait pas où prendre quelqu'un pour lui faire très mal. Mmh. Vous prenez l'histoire de Job, vous allez voir, c'est de façon stratégique que les événements sont survenus dans sa vie.
Et oui, tu as raison. Le diable a commencé par les enfants.
Les enfants.
Il a tué les 10
Parce
enfants.
Parce que Job, c'est un homme, c'est un père. Quand quelque chose arrive à ton enfant, mais ça, l'émotion que cela suscite en toi, tout cela était calculé. Mais pourtant, à chaque fois, il a vu que le monsieur tenait, dit, ok, maintenant là, on va s'en prendre à son corps et on va voir, et ainsi de suite. Donc, il a commencé par les enfants sont partis. Maintenant, la femme, vous voyez un peu, la femme. Donc, mais ça aussi, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que ce monsieur a pris une décision. Et c'était dit, quoi qu'il arrive, je ne renoncerai pas. C'est ce genre de christianisme qui nous manque aujourd'hui, au 21e siècle, où nous nous sommes approchés du Seigneur à cause de ce que nous espérons obtenir auprès de lui, d'un point de vue matériel, plutôt que notre communion et notre marche avec lui.
Turning back, sans retour, nous sommes décidés, l'autre Laurent. Alors, quelle leçon pour nous aujourd'hui? Quelle leçon pour
nous? Alors, pour nous chrétiens, je crois qu'il faut commencer par les fondamentaux. Premièrement, Jésus a payé le prix de notre salut. Là, il faut que ça se comprenne. Et ce n'est pas à cause de nos œuvres que nous sommes sauvés. D'accord? Et c'est ce que dit l'Écriture que nous annonçons quand nous prêchons la bonne nouvelle. L'apôtre Paul dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Ça, on doit le comprendre. Mm. C'est un fait, ça a une portée temporelle et éternelle. Ça s'est passé en un temps donné, ici sur cette terre, mais ça a une dimension planétaire et éternelle, bien entendu. C'est pour cela que quand on prêche cet évangile-là, partout dans le monde, le résultat est le même. Des vies sont transformées. Mais l'apôtre Paul nous dit, quand il considère sa vie, il dit, normalement, il ne devait pas être sauvé. Mais il a été pour montrer à tous ceux qui viendront après, quels que soient vos péchés, Jésus est prêt à vous sauver. Il dit, 1 Timothée chapitre 2, chapitre 1, verset 12, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur. » Un juif blasphémateur? Là, cette parole est en train de dire que Paul comprend que Jésus est Dieu, parce qu'il s'en prenait à Jésus. D'accord? J'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Normalement, je ne pouvais pas obtenir le salut. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. C'est pour cela que dans les actes, il est dit, Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance. C'est celui qui ne connaît pas Dieu qui décide de détruire ce qui appartient à Dieu. Si je fais du mal à mon prochain, c'est parce que je ne connais pas Dieu. Mais lorsque, si je connais Dieu, je ne ferai pas du mal à la créature de Dieu. Et Dieu dit, quoi que tu aies fait, si tu viens, je t'accepte. À condition que tu sois sincère, que tu ne répètes plus ce que tu as fait. Et dit, dans l'incrédulité, la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Quelle est cette parole? Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Donc Paul, apôtre de Jésus-Christ, dit, il est conscient que lui aussi a commencé comme tout le monde. À un moment donné de sa vie, là, il a dû confesser, oui, je suis pécheur. Et il a demandé pardon à Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en mon nom dans le monde entier, à commencer par Jérusalem. Paul a fait ça et il a été transformé. Donc, nous sommes sauvés non à cause de nos œuvres, mais ce n'est pas la grâce de Dieu. Ça, il faut que ce soit clair. Maintenant, même l'appel que nous recevons de Jésus, ça, c'est les leçons, ça. L'appel, parce que le monsieur, après sa conversion, a commencé par prêcher. D'accord?
Oui, oui.
Très bien. L'appel que nous avons reçu, Tite chapitre 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais c'est selon sa miséricorde. Vous voyez, si je suis appelé au ministère, à quelque niveau que ce soit dans le royaume de Dieu, quoi que ce soit que je suis en train de faire pour le Seigneur, ce n'est pas parce que je sais prier, ce n'est pas parce que je sais faire ceci ou cela. La même grâce qui m'a sauvé, pécheur que j'étais hier, c'est par cette même grâce que je suis appelé. Donc, ce serait grave pour quelqu'un de penser que c'est parce que moi-même je priais 4 heures par jour que Dieu m'a appelé. C'est parce que j'avais une voix de rossignol, que comme Jésus a vu que dans sa maison, dans sa chorale, il n'y avait pas de belle voix. Alors il m'a fait venir dans sa maison pour que je vienne renforcer l'équipe de la chorale ou du groupe musical. C'est par grâce. C'est toujours par grâce que nous sommes sauvés. Et quand on est sauvé, il y a toujours une preuve. Il y a des gens qui peuvent témoigner. Où est Zachée? Dès que Zachée a été sauvé, il a dit publiquement, je volais avant, maintenant je suis prêt à restituer. Vous voyez un peu? Maintenant il paraît qu'à Lomé, maintenant il y a une histoire de corruption des gens qui ont détourné des fonds. C'est ici on va voir les chrétiens. Si je suis chrétien et que ma mère est dans ça là, je dois dire, ok, je rends ce que j'ai pris. Maintenant, si ma mère est dans ça, et que je sais que la Bible dit, si tu prends ce qui n'est pas à toi, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu, qu'est-ce que je fais? Publiquement, c'est ce que Zachée a fait, publiquement. Parce qu'au jour du jugement, Zachée viendra dire, moi je connais même pas le CFA, je connais pas le dollar, je connais pas ça, mais en mon temps, quand j'ai entendu parler de Jésus, j'ai dit devant tout le monde, je reconnais que j'arnaquais les gens, je volais ce qui n'est pas à moi, et j'ai dit à tout le monde que je vais restituer. Comment est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est converti? Voleur, converti, et il ne rend pas ce qu'il a volé. Donc normalement le trésor public doit ouvrir les portes parce que si quelqu'un est réellement converti, il doit aller remettre l'argent parce que l'argent ne lui appartient pas. Quand vous prenez l'histoire de Marie de Magdala, elle était prostituée, d'accord? Et il y avait des démons en elle. Et Jésus a chassé les démons. Elle est convertie. Mais le type d'évangile que nous avons aujourd'hui, si tu avais ça avant quand tu es converti, tu as plus que ça. Mm-hmm. Donc, selon l'évangile de ces derniers temps, prostituée locale qu'elle était, maintenant qu'elle est convertie selon l'évangile de prospérité, ok, elle va migrer à un niveau plus élevé, c'est les blancs qu'elle aura maintenant comme clients. Non, c'est pas ça l'évangile. Le véritable évangile fera que cette femme aura honte de son ancienne vie. Et elle ne voudra plus avoir quoi que ce soit à faire avec la prostitution. Parce que sa vie est clean. Vous voyez, quand elle s'accrochait à Jésus, pourquoi elle est allée dans le jardin? Pourquoi elle est restée? Celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Vous comprenez? Elle était une épave humaine quand Jésus l'a sauvée. C'est pour cela qu'elle ne pouvait pas accepter que son sauveur meure. Mais pour certains, ils ne comprennent pas. Donc, là, nous comprenons que le salut est par grâce, notre appel est par grâce. Et la décision que nous prenons pour suivre le Seigneur est une décision personnelle. Mmh. C'est une décision individuelle. Mmh. Parce qu'un jour, nous aurons à rencontre à Dieu seul, pas avec plusieurs personnes. Je prends toujours Paul, dont on a parlé tantôt. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Pourquoi? Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ, frère. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Vous voyez, c'est une décision. Je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, les épreuves d'hier, là, c'est fini. Ça a eu son impact sur ma vie, mais je les oublie. Les tentations d'hier que j'ai pu vaincre par la grâce de Dieu, je les oublie. J'ai devant moi la croix, j'ai devant moi l'appel de Dieu, j'ai devant moi le juif me dira, ça va, rentre à la maison. Je veux entendre cette voix et pouvoir rentrer. C'est ça la vie de Paul. Et il dit, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Il nous a adressé une vocation, un appel. Ne permet à personne ni à rien de manquer à l'appel le jour où celui qui t'a appelé, c'est pas le pasteur qui t'a appelé. C'est pas le comité de l'église qui t'a appelé. C'est Jésus-Christ qui nous appelle. Et donc, ma responsabilité, c'est de finir ça et de le rencontrer de l'autre côté. N'en déplaise à ceux qui sont dérangés lorsque Dieu utilise X et utilise Y. Il y a des gens qui vont se retrouver en petit groupe pour dire, non, s'il fait ça, si elle fait ça, oublie-les. Focalise ton attention sur celui qui t'a appelé. Parce que quand Paul a toujours fait ça, vers la fin de sa vie, il pouvait dire en toute tranquillité, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Oh, Paul, et qu'en est-il de Démas? Ça fait son affaire. Qu'en est-il de ceux qui t'ont abandonné? Ça fait leur affaire. Moi, là, personnellement, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, ce n'est qu'il ne fait pas acception de personne, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc pour nous, ça c'est quelques-unes des leçons qu'on peut tirer rapidement. Décision personnelle, de bout en bout, je veux tenir jusqu'à la fin. De bout en bout, tu dois tenir jusqu'à la fin. Tu as bien commencé, nous avons bien commencé. C'est vrai qu'actuellement, il y a des crises dans le monde. Ce n'est que le début. Il y a autre chose qui vont arriver. La Bible dit il y aura une épreuve qui va survenir sur la terre tout entière pour éprouver les habitants de la terre. Lorsque par la suite, pour une raison ou pour une autre, on te dira, ok, si tu veux fonctionner en société, il y a ce fameux vaccin que tout le monde doit prendre, obligatoire, vaccin différent des vaccins que nous avons connus, parce que ça va altérer ton ADN. Et ce qui altère ton ADN va altérer ta personnalité. Et tu comprends pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, si quelqu'un prend ces choses-là, la personne ne pourra plus avoir de communion avec Dieu. Et si tu sais ça en tant que chrétien, tu dis non, dis ok, quiconque n'a pas de vaccin ne va plus à la pharmacie, n'ira plus dans le supermarché, quiconque n'a pas de vaccin ne fera plus ça, ne fera plus ça, ne fera plus ça. En ce moment, on dira oui, pour tous ces gens-là, c'est les chrétiens, ils sont méchants, ils sont mauvais, ils sont contre le développement de la société, ainsi de suite. Cette épreuve surviendra sur la face de la terre. En plus d'autres choses. Mais en ce moment, il y a ta conviction que tu es en Christ. Et il y a ce que le monde te propose. Prends le vaccin, vis heureux, quelques temps après. Et quand la trompette va sonner, tu vas manquer à l'appel. Le diable ne te dira jamais ça. Quand il te pousse à tomber dans le péché, il te dira, non, ne t'en fais pas. Si tu tombes, personne n'est là. Si tu tombes, tu peux te relever. Tu as péché en secret, tu peux confesser en secret. Dieu qui voit dans le secret, te pardonne dans le secret. Et la vie continue dans le secret. La vie chrétienne, c'est pas ça. Chaque chrétien est comme dans un stade. Vous voyez quand les gens vont au stade là. Tous ceux qui sont dans les tribunes ont leurs yeux fixés sur les 22 acteurs, plus l'arbitre et les deux juges de touche, n'est-ce pas? C'est eux qu'on voit en mouvement. C'est presque la même chose. Le diable te voit. Jésus te voit. Les anges de Dieu te voient. Les démons aussi te voient. Ils savent quand tu es fort, quand tu es faible. Mais à cause de ce que nous aimons le Seigneur, nous prenons position pour notre foi. Advienne que pourra. Qu'un oncle soit d'accord, une tante soit d'accord, un président soit d'accord, un ministre soit d'accord, un préfet soit d'accord. Un chrétien décide premièrement pour Jésus, pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est ce qui va se passer dans le monde entier à partir de 2021. Vous allez voir la face de ce monde, vous serez surpris. Mais on a pris une décision pour Jésus jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, jusqu'au bout. Vous voyez, il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des gens qui meurent de faim à cause de leur foi.
Oui,
on leur refuse de quoi manger à cause de leur foi.
Très bien, on va en revenir dans quelques instants. J'avais dit en tout temps qu'on va essayer d'écouter la chanson en espagnol. Et c'est en espagnol que nous l'écoutons. J'ai décidé de suivre Jésus. Nous revenons dans cette émission. Nous allons finir dans quelques instants, mais en attendant, il faudrait qu'on s'arrête un peu, l'autre Laurent. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. C'est une chanson très intéressante. Il faut le dire qu'il y a des leçons encore davantage à en tirer. Hein? Parce que je me rends compte, quand j'ai découvert ça, je me suis dit que, attention, on chante ce hymne-là sans vraiment cerner ce que ce monsieur a subi. Moi, je l'appelle aujourd'hui la chanson du sang. J'appelle à partir d'aujourd'hui ce thème-là comme étant la chanson du sang. On le chante souvent en éveil, hein, et comme tu l'as dit, on l'a fredonné au début. Nyamdou, bébé, ma Dieu, mais c'est ça, non? J'ai décidé de suivre Jésus. Ok? On le chante, mais ce que le monsieur a subi, ça a coûté sa vie. Mais je me suis dit, attention, il faut revoir ma manière de chanter ce cantique. Si quelqu'un a donné sa vie pour que un chant en sorte, alors je dois faire beaucoup attention.
Ouais.
Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire.
Oui, là, tout autour de ce récit, il y a ceci.
Oui.
Un missionnaire appréciait la parole de Dieu à cet homme.
Oui.
La parole de Dieu.
Oui.
Et le monsieur a décidé de ne pas renoncer à Jésus. Ça veut dire que dans le message qui lui est prêché, il a compris que Jésus est le sauveur. D'accord? Et qu'il est prêt à mourir pour ce Jésus-là. Et quand tu prends le Nouveau Testament, de bout en bout, c'est ce que tu vas voir. C'est toujours en raison, en rapport avec la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Je vous donne juste quelques exemples dans les Écritures. Apocalypse chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation.
À la tribulation.
À la tribulation et au royaume. Et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu, numéro 1, et du témoignage de Jésus. Tu vois, c'est les deux. La parole de Dieu, le témoignage de Jésus. C'est pour ça qu'il a été persécuté, qu'on l'a envoyé sur cette île-là où bon, il n'a qu'à mourir parce qu'on l'a tenté par mille moyens, on n'arrivait pas à le tuer.
C'est la même chose avec ce monsieur, hein.
C'est la même chose.
À cause de la parole de Dieu.
De la parole de Dieu.
Et du témoignage qu'il rendait.
Voilà.
Et ça a
que cela est arrivé. Oh, Apocalypse 6, verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu.
Très bien.
Parole de Dieu, témoignage. Parole de Dieu, témoignage. Apocalypse chapitre 12, verset 11, et ça c'est un verset que nous citons, sans nous laisser imprégner par le contenu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie. Jusqu'à craindre la mort, c'est ce qui est arrivé au monsieur. Il n'a pas aimé sa vie jusqu'à craindre la mort. Si je dois mourir pour Christ, je suis prêt. Ouais. C'est ce qu'il a dit. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Tu vois, à chaque fois c'est le témoignage, la parole de Dieu, le témoignage, la parole de Dieu. Frère, si nous sommes réellement convertis, il y aura des moments où nous devons prouver à Christ que nous l'aimons réellement. Ça arrive dans nos vies, d'une manière ou d'une autre. Mais si ça arrive et que vous flanchez, il peut, dans son amour, vous accorder plus de grâce. Mais nous n'allons pas faire de cela un mantra. Chaque fois qu'on est face à une tentation, on succombe à la tentation. On dit, Seigneur, toi-même, tu comprends. Oui, l'argent là, je ne devais pas prendre. Toi-même, tu comprends. Oui, cette histoire là, je ne devais pas faire. Toi-même, tu comprends. Il comprend que tu n'es pas sérieux. Parce que quand on est sérieux et qu'on sait qu'on a la vie éternelle en face de soi, on ne joue pas avec son salut. On ne joue pas avec le péché pour dire oui, non, ouais, voilà, tu vas te convertir après, tu vas te repentir après. Frère, un pasteur dans son amour pour toi peut te discipliner et te dire, ok, après 6 mois, c'est fini. Ce n'est pas le pasteur qui décide quand tu es restauré, c'est l'Esprit de Dieu qui restaure. Si pendant ce temps de discipline-là, tu n'as pas été devant Dieu sérieusement, tu n'as pas prié, tu es comme un prisonnier à qui on a donné 5 ans de prison, et il fait les décomptes, il reste 2 semaines, il reste 7 jours, il reste 6 jours. Si c'est dans ça que tu étais, mais les 6 mois vont finir, mais tu n'es pas restauré. Un homme peut te restaurer, mais Dieu va le regarder, mais ce gars, il n'est pas sérieux. Cette jeune dame-là n'est pas sérieux. C'est une question de décision personnelle. Quand je choisis de donner ma vie à Jésus, c'est envers et contre tous. Si quelqu'un est d'accord, on y va. Mais si quelqu'un refuse, si vous refusez de suivre Jésus, je continuerai à le suivre. Si vous refusez de l'adorer, je continuerai à l'adorer. Si vous refusez de parler de lui, là où vous vous trouvez, vous devez normalement parler, je continuerai à le faire. C'est ça le son qui nous est parvenu depuis des siècles. Des gens ont donné leur vie pour ce livre-là que nous avons aujourd'hui dans nos mains. Les gens ont donné leur vie pour l'évangile, même sans savoir que après leur mort, d'autres vont se convertir. Les gens étaient prêts. Les premiers chrétiens, on leur disait par moment, nous ne te disons pas de renier Christ. Voilà de l'eau. Voilà un peu de choses. Juste verse la libation par terre. C'est tout ce qu'on te dit. Non, je ferai jamais ça. Parce que ce serait faire allégeance au diable. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les gens aiment le diable plus que Jésus. On a l'impression que les gens aiment le monde plus que Jésus. Vous allez voir un chrétien, quand il s'agit de défendre le Seigneur, ils ont des arguments. Dieu dit, il faut être sage. Et ils sont tellement sages que l'évangile n'arrive plus à prospérer. Pourquoi? Depuis que nous nous sommes convertis, à qui avons-nous parlé dernièrement? Qui s'est converti? Depuis que nous sommes convertis, dans nos chambres là, quand est-ce que pour la dernière fois, je me suis tenu devant Dieu pour lui dire, cette personne-là, elle doit se convertir. Seigneur, parce que tu as versé ton sang pour qu'il se convertisse. Je sais qu'il fait ça, il fait ça, il fait ça. Mais quand tu vois quelqu'un, que tu sais que cette personne-là, si elle meurt dans cet état, va aller en enfer. Et tu es à côté, c'est lui qui te paie à la fin du mois. Tu sais qu'il n'est pas converti. Ça ne te dit rien. À la fin du mois, tu attends ton salaire. Tiens, telle autre personne, ton mari n'est pas converti. Vous êtes sur le même lit. Vous êtes ensemble. Mais s'il meurt dans cet état, il ira en enfer. Ta femme n'est pas convertie. Par elle, là, tu as eu des enfants. Tu sais que si elle ne se convertit pas, elle ira en enfer. Mais rien, ça ne nous dit rien. Il faut être sage. Ce frère dans l'église, cette soeur dans l'église, à cause de sa situation particulière, elle est en train de flancher. Elle est en train d'abandonner la foi. Mais il faut être sage. Notre sagesse a fait que ceux qui ne devaient pas aller en enfer sont en train de partir. Des gens à qui juste un mot de notre part et on ramènerait quelqu'un de la voie de la perdition. Non, il faut être sage. Et nous sommes tellement sages que les anges ont honte quand ils nous voient. Parce qu'ils savent que Dieu ne peut pas compter sur lui là. Jésus ne peut pas compter sur celle-là. Tu es dans cette voiture-là. Tu ne peux même pas ouvrir la bouche et dire un mot sur Jésus. Jusqu'à ce que le véhicule arrive à destination, tu sors. Quelques instants après, tu attends qu'il y ait un accident et que les gens sont décédés dedans. Si on aurait pu parler, la grâce de Dieu aurait permis à ces gens de se réconcilier avec Dieu. Il nous a appelés ambassadeurs. pour réconcilier les hommes avec Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Bientôt, la trompette va sonner. Et de l'autre côté, nous rendrons compte de la grâce que nous avons reçue, du ministère que nous avons reçu. Nous rendrons compte de tout ce que Dieu a fait. Vous pensez que c'est chose triviale? Que quand tu marches, les anges sont avec toi. Pourquoi ils sont avec toi? À cause de Jésus, à cause du sang. À cause du sang qu'il a versé. C'est pour ça que les anges te protègent. Quand tu ne vois pas, eux, ils voient ce que tu ne vois pas, ils te protègent. Pour que tu sois un témoin, pour que je sois un témoin. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous faisons? Vous voyez, dans l'original, il dit, I will carry my cross till I see Jesus. Je porterai ma croix jusqu'à ce que je vois Jésus. Tu as laissé tomber la croix? Tu t'es arrêté en chemin? Tu as remboursé chemin à cause de X, à cause de Y? Tiens ferme dans la foi. Ça ne sera pas long. Quand on va finir, de l'autre côté, on va se réjouir. Mais pour le moment, on doit souffrir un peu. Tiens ferme dans la foi. Ne laisse pas tomber à cause d'un homme, à cause d'une femme, à cause de poste, de position, de place, à cause de richesse et d'opportunité. Tiens ferme. Il revient bientôt. De l'autre côté, on va se réjouir. Pour le moment, là, on va tenir pour lui. Garde ta position. N'abandonne pas ton poste d'intercesseur, de prédicateur. Annonce l'évangile. Il vient bientôt. Et quand on ira de l'autre côté, tu te réjouiras d'avoir tenu jusqu'au bout.
Très bien. Voilà, nous avons apporté un peu de lumière sur cette chanson que nous chantons d'habitude dans nos églises. Mais nous avons essayé de vous apporter la lumière sur l'origine de la chanson. Je vous laisse écouter la chanson. Et c'est sur cette note musicale qu'on va se dire au revoir. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus, la version française que nous connaissons très bien. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de la JVA et à la semaine prochaine. Bye bye.